Seigneur, merci. Merci pour ces moments et on veut vraiment avoir un cœur ouvert et disposé. Ouvrir nos deux oreilles que tu nous as dotées pour entendre ce que tu as mis sur le cœur de Jean à nous partager, que vraiment on puisse être attentif à tout ce que tu vas nous dire, que tu puisses bénir Jean, l'inspirer, le conduire dans ces moments et que tout ce qui va être apporté, que ta parole fasse son effet dans nos cœurs. Et on est vraiment reconnaissant parce que tu nous as laissé ta parole et reconnaissant pour Jean qui va nous transmettre le message que tu as mis sur son cœur. Amen.
Amen. Amen. Je propose de lire les deux derniers versets de Hébreux 10 et dans la suite du texte, Hébreux 11 jusqu'au verset 11. Donc on lit 38 et 39. Un mot d'abord. Les différentes choses que nous avons chantées et que nous avons entendues, donc les différentes paroles qui ont été apportées, déjà étaient bien édifiantes et utiles. Et en plus, nous aideront à comprendre ce texte et à tirer meilleur bénéfice de ce texte. Et mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. Mon juste, c'est l'Éternel qui parle, vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, littéralement, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Or, la foi, Dieu vient de dire, mon juste vivra par la foi. Or, la foi, c'est l'assurance, la garantie des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens, donc ceux des générations anciennes, en l'occurrence ceux dont les débuts de la Bible nous parlent et puis toute la suite, c'est à cause d'elle, à cause de la foi, que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, par sa foi, il fut déclaré juste. Il reçut le témoignage qu'il était juste, littéralement. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, au pluriel, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi que Hénoc fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est, littéralement, qu'il existe, qu'il est, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour le salut de sa famille. C'est par elle, par sa foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, par la suite, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait, donc précisément Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Les mots foi et fidèle sont de la même famille, en français déjà, via le latin, mais en grec aussi, dans le Nouveau Testament, c'est des mots de la même famille. La foi consiste à tenir Dieu pour fidèle, à prendre en compte que Dieu est fidèle. Alors, verset 28. Mon juste, 38, merci. C'est impressionnant. Dieu dit mon juste, celui que j'ai justifié, mais il dit bien, il est à moi. C'est capital de garder ça. Et évidemment que cette partie que nous avons lue se comprend avec toute l'épître aux Hébreux. Oui. Alors, donc 11 verset 1, « Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. » Ce verset, il est placé ici, après que Dieu ait dit que celui qui l'a justifié vivra par la foi. Et tout le reste dans l'Épître aux Hébreux montre que c'est Dieu qui appelle, et encore ici ce qu'on a lu, c'est Dieu qui donne la foi. Si ce verset, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, si c'était le premier verset de la Bible, et pour des lecteurs qui ne connaissent pas Dieu encore, si vous voulez, si la Bible ne commençait pas par le mot Dieu, au commencement Dieu créa, si elle disait simplement, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, eh bien le lecteur, non-croyant, il s'arrangerait, et le lecteur croyant, il serait tenté de se dire que son assurance, c'est de se convaincre que ce qu'il espère arrivera. Or, ce n'est pas le sens du verset. Le sens du verset, comme dans l'ensemble des Écritures, les choses qu'on espère, ce sont les choses que Dieu a dites, qu'il a promises, qu'il a révélées. Autrement dit, c'est Dieu qui dit ce qu'il faut espérer. Et c'est pour ça qu'il y a de l'assurance. Autrement, je cherche à me convaincre moi-même. D'accord ? Mais là, c'est Dieu qui me convainc. Et la foi, donc, certes, Dieu commande de croire, mais c'est lui qui donne la foi. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Ce qui fait que celui qui croit, qui a la foi et qui veut grandir dans la foi, qui, comme les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi, qui voudrait mieux croire, plus rapidement peut-être, ne pas trop différer, etc. Celui qui croit, quelque part, il ne se regarde pas lui-même, il regarde Dieu. De temps en temps, il jette un coup d'œil quand même où il en est. Mais voilà. Et la démonstration, ou la substance même des fois, de celles qu'on ne, des choses qu'on ne voit pas. Parce qu'évidemment, les choses que Dieu a données à espérer, eh bien, même si ça doit arriver sur terre, au début on ne les voit pas, mais fondamentalement, on a lu, Abraham, il attendait. Abraham, il arrive dans le pays promis, il est propriétaire de rien du tout. Quand Sarah va mourir bien plus tard, il va acheter un champ et l'enterrer là. Il a rien. Et on lit ici, il attendait quoi, d'être propriétaire de tout le pays? Non. Alors Dieu le fera pour ses descendants, ça. Mais il attendait la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, c'est-à-dire l'architecte, celui qui l'a pensé, dont la cité dont il a le dessein, et celui qui réalise. Verset 2, c'est à cause d'elle, à cause de la foi, que les anciens ont reçu un bon témoignage. Donc les anciens, on a vu, hein, les premiers d'entre eux, on a lu leur nom, ont reçu un bon témoignage. Un bon témoignage de qui? Rendu par qui? Eh oui. Qui a dit? Il y a eu la réponse. Oui, 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 ben oui. Et alors, en plus, c'est écrit textuellement au verset 4, Dieu rendant lui-même témoignage, hein, aux offrandes d'Abel, c'est Dieu. Ça veut dire, si vous voulez, le verset 1 et le verset 2, si on les regarde ensemble, ça veut dire que non seulement c'est Dieu qui te donne la foi par sa parole, par ses promesses, en désignant ce qu'il faut espérer. Non seulement c'est lui qui te donne la foi, mais après il apprécie ta foi et il rend témoignage à ta foi. Il dit, ça c'est de la foi. Et ça aide à comprendre mon juste. Plus loin, on ne lit pas tout aujourd'hui, hein. Plus loin dans le même chapitre, au verset 16, il est écrit, « Il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, mon juste. » Et à vrai dire, si je ne suis pas le juste de l'Éternel, je ne suis pas juste. Alors, ce mot témoignage, il revient... au verset 2 là, au verset 4 deux fois, au sujet d'Abel, puisque là en français on a il fut déclaré juste, mais littéralement il reçut le témoignage qu'il était juste de la part de Dieu, on y reviendra, une deuxième fois dans ce même verset, ensuite au verset 5, Enoch a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu, et puis au verset 39, même au sujet de ceux qui n'ont pas obtenu ici-bas ce qui leur a été promis, mais et le verset, j'ai dit quoi? Oui, 11, verset 39, ils ont reçu un bon témoignage. Ils n'ont pas obtenu concrètement, ici-bas, ce qui était promis, mais ici-bas, ils ont vécu avec le témoignage de Dieu, avec une attestation de Dieu, comme si Dieu mettait... Mais ce n'est pas comme si, la Bible est claire, Dieu nous a marqués de son sceau. Verset 3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc ce matin, ça a été dit de différentes manières que Dieu crée et est créateur, formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Alors, je me délecte à relever qu'il n'est pas écrit ici ce qu'on voit provient de l'invisible. Par ailleurs, c'est écrit par-ci, par-là, il n'y a pas de souci. Hein. Même dans ce même chapitre, hein, Moïse qui marche comme voyant celui qui est invisible. Mais ici, C'est-à-dire que notre dans ce verset, notre attention, Dieu n'attire pas notre attention vers l'invisible, ce qui peut être assez vite une abstraction dans ma pensée, mais il dit ce qu'on voit a été formé par sa parole. Par sa parole. Et ce qui fait que, et c'est sa parole qui c'est par sa parole qu'il donne la foi et qu'il la nourrit, l'entretient. Alors, on connaît hein, Romains 10, 17, or la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Christ. Alors pourquoi la parole de Christ? Mais parce que Hébreux commence, enfin c'est le premier verset d'Hébreux qui aide à comprendre ça. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes et il nous a parlé maintenant par le Fils. Ce qui fait la parole de Dieu, la parole de Christ, par Christ, la parole de Dieu qui nous est adressée est, j'allais dire, pleine, complète, je ne sais pas comment dire. C'est dangereux d'employer des mots. Elle est complète, alors est-ce que ça veut dire qu'elle n'était pas complète avant? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais cependant, il a parlé par les prophètes, il a parlé maintenant, dans ces jours, par le Fils. Voilà. Ce qu'on voit vient de sa parole. Ma foi vient de sa parole et le monde vient de sa parole. Et le mot monde ici peut être aussi traduit par les âges. Viennent aussi, et le temps est créé par lui aussi. Et c'est par la foi que nous comprenons que le monde... Alors, personne ne comprend tout à fait comment Dieu a créé le monde et les âges, etc. Ni même tout à fait comment Dieu crée la foi. Mais on en profite, on en bénéficie. Relevons ce mot, nous comprenons. Nous ne comprenons pas tout, mais la foi accueille, reçoit, prend au sérieux des données intelligibles de la Bible. De la Bible. N'oublions pas que dans la bouche de Jésus, il est écrit, Dieu a dit, et il est écrit, c'est interchangeable. Pour notre Seigneur Jésus, il est écrit, ça signifie Dieu a dit. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Alors là, Abel, c'est le premier personnage nommé. Alors peut-être l'un ou l'autre s'étonne de ce que ce ne soit pas Adam et Ève. Accessoirement, Adam et Ève, au moins jusqu'à la rupture, ne vivaient pas par la foi. Ils vivaient par la vue, ils étaient en plein dedans. Surtout, il y a un silence. Je ne sais pas comment le qualifier. Après la rupture, il y a un silence ou un quasi-silence au sujet d'Adam et Ève qui est inquiétant. Et donc c'est Abel qui est nommé en premier comme ayant eu foi. Donc ce verset 4 fait référence à Genèse 4, verset 4, où on lit que donc Caïn apporte des offrandes, offre à l'Éternel des produits de ce qu'il a cultivé, et puis Abel, qui était berger, il offre quelque chose du troupeau. Et dans Genèse 4, on lit littéralement, l'Éternel regarda l'offrande de Caïn. Oh, pardon. l'offrande d'Abel et il ne regarda pas l'offrande de Caïn. Et donc on connaît le texte, Caïn il le prend très très mal, etc. Et Dieu déploie une patience incroyable pour le ramener à... Voilà. Mais Abel, puisque rien n'est écrit sur comment ils vivaient, Adam et Ève, puis Caïn qui est né, puis Abel qui est né, comment ils vivaient après la rupture. Puisque rien n'est écrit, il est difficile d'affirmer beaucoup de choses. Il y a une chose que je suggère, je ne peux pas l'affirmer, ce n'est pas écrit. Je suggère que Abel a été élevé par des parents profondément traumatisés par la rupture. Et je voudrais qu'on réfléchisse une seconde. Tous ceux ici qui sont nés d'en haut, nés de Dieu, ont une conscience nette de la différence de leur situation d'avant avoir été sauvés par Dieu et maintenant après. D'accord ? On est mieux. Ouais. Et même 50 ans après, des fois, on pleure juste parce qu'il nous a sauvés. Et si on lit qu'il nous a voulu et élu et prédestiné avant, donc avant même qu'on ne naisse et qu'on ne pêche, alors là, on pleure encore plus. Alors, eh bien, pour Adam et Ève, ça a été l'expérience inverse. Il était proche de Dieu. Genèse ne dit pas qu'il le voyait, mais quand même, il l'entendait, et c'était impressionnant. Et puis, ils sont chassés du jardin, il y a la rupture, il y a le mal, et eux-mêmes, ils commencent à faire le mal, etc. D'ailleurs, on l'a lu ici. Hein, voilà. Et Abel, il est élevé par ses papa, maman, et on ne sait pas comment il considérait Dieu. Mais le fait que Dieu a regardé son offrande, ça signale forcément quelque chose. Au moins, ça signale que pour Abel, c'était une offrande de tout cœur. De tout cœur, pas que sentiment, hein, toute volonté, ça va avec. Et qu'il considérait Dieu, forcément. Alors, est-ce que Caïn le considérait que pour la forme? Je ne sais pas. Mais ici, on lit que c'est par la foi qu'il a fait son offrande. Et comme le verset finit par le mot offrande au pluriel, on peut penser que régulièrement Abel faisait des offrandes au Dieu créateur de ses parents qui étaient si mal. Dans le texte biblique, après la rupture, Adam il dit pas un mot. Et sous l'arbre aussi, il dit pas un mot à Ève. Voyez, par la foi. Donc la foi d'Abel, elle est gratitude envers Dieu. Elle considère Dieu qu'il connaît peu. Il n'a probablement pas entendu parler comme c'était le privilège d'Adam et Ève, mais il le considère. Et ici, le verset dit de plus grande valeur. Alors, qui dit que ce que je fais pour Dieu, ou mon cœur pour Dieu, mon offrande à Dieu, qui dit que cela a de la valeur ? C'est à Dieu de le dire. C'est à Dieu de le dire. Par moments, j'ai un écho de mes frères et sœurs qui disent « Oui, ça c'est là, j'ai senti que ça venait de Dieu, tout ça. » Et ça encourage. Mais fondamentalement, c'est à Dieu de dire si ce que je fais pour lui a de la valeur. Et puis, je le formule aussi, évidemment, pas seulement en termes de « si ça a de la valeur », mais « quand ça a de la valeur ». Ou que ça a de la valeur. J'ai pas le temps de développer le fait que le chapitre suivant parle du sang de Christ qui parle mieux que celui d'Abel. Donc implicitement, ça dit que le sang d'Abel parle. Mais bon, voilà. Verset 5. C'est par la foi que Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort. Alors là, c'est pas rien quand même. Et à part longtemps après Élie, voilà, c'est le seul. Hein. C'est vraiment pas rien. Parce que Dieu avait dit, tu mourras. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Et s'il veut dispenser quelqu'un de la mort physique, ben, il l'a fait deux fois. Après, n'allez pas vous convaincre qu'il va le faire avec vous. Hein. Alors, pourquoi je dis ça? Vous pouvez me rétorquer, mais qu'est-ce que t'en sais? Dieu, il fait ce qu'il veut. Certes, mais je pense qu'il ne le fait plus avec personne dans la Nouvelle Alliance. Une raison pourrait être que si son propre fils est passé par la mort physique, eh bien, il n'a pas dispensé Pierre, il n'a pas dispensé l'apôtre Jean, plein d'amour. Voilà. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Donc forcément ici, la question, il y a une bonne question à se poser ici, c'est pourquoi Dieu l'a enlevé? Et le texte dans Genèse 5, le texte ne suggère, enfin, ne dit pas parce que, mais suggère fortement. Et donc ici on a un parce que, en français là c'est car, mais c'est le même sens. Pourquoi Dieu l'a enlevé? Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Alors, qui a témoigné que Enoch plaisait à Dieu? Ben oui, c'est la seule réponse qui tient. Mais c'est la main gauche. Oui. C'est Dieu qui témoigne que Enoch lui a plu. Dans Genèse 5, parce qu'évidemment ce verset fait référence à Genèse 5, et là on a versets 22 et 24, deux fois il est écrit Enoch marcha avec Dieu après la naissance de Mathusalem. Il marcha avec Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Eh bien, c'est ce qu'ont fait tous les personnages impliqués dans les versets précédents. Et même mon juste vivra par la foi. Dieu importe. Dieu compte plus que tout. Dieu parle, j'écoute. Dieu dit, je fais. C'est une faveur incroyable que Dieu marche avec nous, se tienne proche de nous. Mais c'est une grâce incroyable de pouvoir marcher avec lui, parce que c'est encore ça, c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Et donc, en quoi Enoch a-t-il plu à Dieu? En ce qu'il a marché avec lui, autrement dit, en ce que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, faisait, pensait, projetait, etc., c'était avec Dieu, pour Dieu. Si vous voulez, formuler autrement, juste pour aider un peu, vivre pour lui. Mais ça peut aller extrêmement loin de vivre pour lui. Alors ça ne veut pas dire, je ne vais pas chercher à avoir un bon métier, parce que ça c'est pour moi, pour gagner des sous. Donc je ne vais pas le faire, donc je ne vais pas étudier. Donc tous les chrétiens sortaient des écoles, sortaient des... voilà, ce n'est pas le sens. Mais si j'étudie, pendant que j'étudie, je vis pour Dieu. Pendant que je travaille, je vis pour Dieu. Pendant que je souffre, je vis pour Dieu. Pendant que je suis super heureux, je vis pour Dieu. Pendant que je mange, je vis pour... enfin, etc. Donc moi, le premier qui le dit, c'est relativement facile de prononcer ces phrases. Moi, le premier, je suis un apprenti. Au sujet, pour ce qui est de vivre pour Dieu. D'accord ? Mais en fait, tout ce que Dieu nous fait faire, et même quand il nous dit de prier, puis nous, on croit qu'on prie pour avoir le résultat. Oui, c'est vrai. Mais ultimement, on prie pour être avec lui. Et le résultat, il est en prime. Voilà. Donc, il a reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. Alors, le verset 6, si vous voulez bien, on y reviendra après. D'accord ? Je vais passer un peu vite sur les suivants. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, alors, est-ce que c'est des pluies diluviennes, c'est le cas de le dire, probablement, ou plus, ouais, évidemment, le déluge, hein, on ne le voyait pas, Dieu ne l'avait pas encore fait, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte. Alors ça, c'est la foi. Pieux, la piété, c'est bien honorer Dieu. Donc, vive pour lui. Bien honorer Dieu. Ça, c'est la piété, une pieuse crainte, la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est, je l'ai dit déjà 100 fois, mais je le répète, j'aime beaucoup, c'est le profond sentiment imprimé dans mon cœur par Dieu, profond sentiment d'une vertigineuse disproportion entre lui et moi. Je n'ai pas dit distance. Disproportion, il est tellement grand. Et on l'a chanté, tu es grand, tu es digne, tu es plus grand. Tu... Voilà. Et donc Noé, Dieu lui dit qu'il va envoyer un déluge, et il lui dit qu'il va détruire toute chair, ou quasiment, hein, sauf dans, celles qui vivent dans les eaux et une partie des oiseaux, et encore. Pardon, pas besoin de s'embarquer dans les... Noé, et Dieu lui dit de construire une arche. Et ça a pris du temps. Peut-être qu'il était tenté de se dire, dépêchons-nous, 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 si jamais ça tombe. Voilà, c'est Dieu qui donne le temps. Il semblerait que ça ait pris 100 ou 120 ans. Bon, eux, ils avaient le temps, ils vivaient plus. Et par elle, par sa foi, il condamna le monde. Alors ça ne veut pas dire que Noé a décrété... Vous tous corrompus, abominables, Dieu il est affligé de ce que vous êtes et de ce que vous faites, je vous condamne. Ça ne veut pas dire ça. Noé, par sa foi, condamna le monde, ça veut simplement dire qu'en ayant foi en Dieu et en craignant Dieu, il a fait la preuve qu'à un humain, c'est possible. Et dans sa génération, du moins au moment du déluge, il était le seul avec sa famille. Il était le seul. C'est par la foi qu'Abraham, dont je n'ai pas lu la fin, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La première chose juste qu'un humain peut faire, c'est de croire Dieu. Jusqu'à son dernier souffle, la dernière chose juste qu'il peut faire, c'est de croire Dieu. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel. Donc on a vu la foi d'Abel. Il y a la gratitude, la foi d'Enoch qui s'attache à Dieu, il marche avec lui. La foi de Noé, ben, il construit, il travaille, il persévère. Là, oui, on peut chanter là, persévère, persévère, persévère. Et puis il y a la foi d'Abraham, il obéit à l'appel. Et donc de nouveau, la parole de Dieu. Chaque fois, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez, le propre de tous ces personnages, c'est que ils ont répondu comme il faut à la parole de Dieu, reçu la parole, voilà, en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Alors on sait qu'il y avait des étapes, etc., qu'il y avait des temps, des tempos, etc. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car il, Abraham, attendait la cité qui a de solides fondations, donc la cité de Dieu. Là. En tout cas, c'est la Bible qui dit qu'Abraham, qui découvrait Dieu, Eh ben, alors lui, il a bâti des hôtels pour Dieu. Dieu lui a parlé plusieurs fois. C'est impressionnant. Nous savons tous ce que la Bible nous rapporte, Ésaïe, je crois, 41. Abraham, mon ami. Et littéralement, c'est Abraham aimant moi. Abraham qui m'aime. Ça veut dire Abraham qui m'aime. Abraham qui m'aime. Et ça va avec la foi. Parce que c'est celui qui croit Dieu qui apprend à l'aimer, et c'est celui qui aime Dieu qui continue à le croire. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc ça relativise tout ce qu'on peut penser, projeter et construire ici-bas. Ça ne l'annule pas, ça le condamne pas forcément, mais ça relativise. Et verset 11, c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, très avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance. Là, ça va plus loin qu'être enceinte et avoir son bébé. C'est tout le peuple de l'Alliance. C'est par la foi. Alors, ici, peut-être quelqu'un se dit, oui, mais j'ai lu quand même, dans Genèse 21, ou je ne sais plus, que Abraham, quand Dieu a dit à son mari, que, parce qu'il y avait déjà Ismaël, quand Dieu a dit à Abraham, oui, pardon, Sarah, ça ira. Quand Dieu a dit à Abraham que c'est de Sarah qu'il aurait le fils héritier de la promesse, elle a ri. Et après, quand son mari rentre, il dit, tu as ri. Et en plus, il lui ment, il dit, non, j'ai pas ri. Il dit, si, tu as ri. Donc, ça veut dire tu t'es esclaffé parce que c'est impossible. Et ici, on lit que c'est par la foi qu'elle a été rendue capable de donner le jour à une descendance. Alors, est-ce qu'entre deux rires, il y avait quelques bribes de foi? Ou plutôt, vraisemblablement, plutôt, est-ce qu'elle a appris à croire? Bon, elle croyait déjà, certes, mais ben c'était difficile de croire l'Éternel avec ce genre de promesses. Abraham, il a cru. Il a cru, ceci dit, il a failli aussi, puisqu'il trouvait que c'était long. Et ben, on peut imaginer que la foi de Sarah a augmenté dans une mesure qui s'approchait de celle d'Abraham. En tout cas, la parole de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré ce que nous sommes en train de lire, la parole de Dieu dit que c'est par la foi qu'elle a été rendue capable. Et c'est précisé Sarah elle-même, c'est-à-dire, attention, pas de pirouette malheureuse, que personne ne dit, c'est la foi d'Abraham seul qui a fait que. Non, le texte dit clairement, Sarah elle-même, donc elle est associée. C'est trop beau. D'accord? Parce qu'elle tint, c'est le passé simple, elle a tenu pour fidèle celui qui a fait la promesse. Et c'est ça la foi, c'est tenir Dieu pour fidèle, tenir la parole de Dieu pour fiable, tenir Dieu pour digne de confiance, tenir sa promesse pour fiable. Voilà. Alors on revient au verset 6. Ça fait combien, Marie? 40 minutes. Et là-haut? Je ne vois pas, moi. Enfin, 52. Oh, c'est bien. Non, mais là, parce que là, je peux pas vous dire quand je vais prendre le verset 6 en 40 secondes. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il a reçu témoignage qui plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors, cette phrase, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, donc d'abord, clairement, sans se compliquer, ça nous dit que ce n'est pas possible. Mais ça fait réfléchir. Parce que nous savons très bien qu'il y a des non-croyants sur la terre, de nombreux non-croyants qui sont des gens remarquables. Généreux, dévoués, avec moralité, fidèles à leur épouse, ou pour les femmes, à leur mari, qui s'investissent pour leurs enfants, etc. Il y en a plein. Alors, ce verset dit que ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Il ne dit pas que Dieu n'apprécie pas leur bonne volonté et ne les récompense jamais. Ailleurs, la Bible le dit, ça, clairement. On le voit avec le roi d'Israël. Il dit, ce que, bon, là, ce n'était pas des non-croyants, quoique certains, ils étaient à la limite. Dit, pour ça, tu as fait ça et ça, comme je voulais, donc pour ça, je t'accorde ça. Donc, Dieu apprécie les qualités, etc., etc. Parce qu'en fait, elles viennent quand même par lui. Un homme qui est fidèle à sa femme, sans le savoir, il obéit à Dieu. Donc, c'est bien. Mais là, il dit, impossible de lui plaire. Alors, pourquoi ? Ça veut dire que plaire ici a un sens très fort. Très fort. Dans le contexte, Enoch plaisait à Dieu et il l'a enlevé. Donc, il lui plaisait beaucoup. Alors, je vous propose une espèce de parabole pour aider... que j'ai imaginé, hein, pour aider à comprendre comment on peut être apprécié et ne pas plaire. Alors, on prend un apprenti ou un stagiaire dans une exploitation. Ou, quand la parabole m'est venue, je pensais à toi. C'est impressionnant. Bon, n'importe, hein, un apprenti d'un atelier, il vient, il y a le maître, ça, et donc, petit à petit, le maître lui dit plein de choses. Tu vois ? Et l'apprenti, il est de bonne volonté, docile, bosseur, il travaille, bien, il en veut, très bien, il est impeccable, en plus plutôt souriant, voilà, très bien, mais le maître lui dit, ben, tu vois, si c'est une exploitation, tu vois toutes ces prairies là, eh bien c'est mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est toute ma lignée qui a défriché tout ça. Et l'apprenti ne le croit pas. Un autre jour, le maître lui dit, ou si c'est dans un atelier, lui dit, tu vois, cette scie-là, jamais de la vie tu coupes du métal avec cette scie-là. Hein. Ça, c'est pour le bois. Et ça, c'est pour le métal, et sinon, tu auras des problèmes. L'apprenti ne le croit pas. Ou, le maître lui dit un jour, on fait journée entière, et donc tu manges avec nous à midi, tu manges à table avec nous, tout ce qui est sur la table, tu peux prendre. Et l'apprenti ne le croit pas. On pourrait multiplier les exemples. Eh bien, quel est le problème ? Et malgré ça, il bosse, il fait tout bien, le ou la. Le problème, c'est que s'il ne le croit pas, il n'y a pas de vrai lien. Il n'y a pas de vrai lien. Il dit, tu peux tout prendre sur la table, il ne le croit pas. Ou alors il lui dit, ça, tu ne touches pas. Parce qu'il ne le croit pas. Du coup, un jour ou l'autre, il va toucher, ce qu'ont fait Adam et Ève. Enfin, pardon, désolé, la Bible ne suggère pas du tout qu'ils ne l'ont pas cru. Ève l'avait très bien cru. La Bible dit qu'ils ont été piégés, voilà. Pardon, là, j'ai dérapé. Voilà. Alors, donc rien que ça, ça aide à comprendre. Sans la foi en lui, il est impossible de lui plaire vraiment. Alors, la phrase « sans la foi, il est impossible de lui plaire » suggère aussi que il faut lui plaire. D'accord ? Et si on...
Pardon. Comme on est pressé, on va aller doucement.
Maintenant. Nous le savons plus ou moins, mais nous savons que l'être humain, naturellement, il a besoin de plaire. Je ne parle pas de se pavaner, c'est pas ça, mais on a besoin de plaire. Les enfants ont besoin de plaire à leurs parents. Et quand ils font les choses, qu'ils obéissent, c'est parce qu'il faut, parce que, et quand c'est de bons parents, ils le font facilement, ils obéissent assez facilement, mais l'un des ressorts pour obéir, c'est de plaire à maman, plaire à papa. On a besoin de plaire. Ce besoin qui est sain, qui je pense qui fait partie de la manière dont Dieu a créé l'humain, c'est un apprentissage pour plaire à Dieu en fait. Et on le sait ça, si on obéit à papa et maman, c'est pour apprendre à obéir à Dieu. Et c'est pareil pour plaire. Et ce besoin naturel de plaire, bien sûr, il est perverti par le péché. Et donc on lit par exemple le premier verset de Romains 15, « Nous ne devons pas chercher à nous plaire à nous-mêmes, littéralement, chercher ce qui nous plaît. » Et se plaire que non, mais en grande priorité se plaire à soi-même, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. De même, trop chercher à plaire aux autres, même dans l'Église, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Donc, c'est vraiment, il plaisait à Dieu. Et le monde entier, chrétien compris, est tellement facilement enclin à vouloir se plaire à soi-même ou vouloir se plaire aux autres. Vouloir plaire aux autres. Voilà. Vivre pour plaire à Dieu, c'est beaucoup plus que veiller à être une bonne personne. Mais ça, on peut le faire sans Dieu. Une bonne personne à mes propres yeux, une bonne personne aux yeux des autres. Et après, ça dépend quels autres. Voilà. Alors, donc, il y a quand même, Romains 15, le verset 2, je pense, dit que chacun cherche à plaire au prochain, ce qui veut dire aux frères et sœurs, en vue de l'édification. Donc, une manière saine de plaire, bon, la Bible dit aussi être agréable, être bon, bienfaisant, etc. Hein, une manière saine de plaire est légitime en Église aussi. Mais bien sûr, c'est très relatif, enfin, c'est en petite mesure, comparé à plaire à Dieu. Mais on le fait pour édifier. C'est-à-dire qu'en étant agréable à tes yeux, je t'aide à croire, à écouter, à recevoir une consolation, etc. Et donc, nous nous édifions mutuellement. Voilà. Donc, plaire à l'homme, en priorité à l'homme, et donc ça peut être moi-même, c'est un esclavage. C'est un esclavage. Et plaire à Dieu, c'est une communion. Parce que l'enfant, quand il plaît à sa maman ou à son papa, il voit les yeux qui brillent. Et des fois, il dit rien, mais ça chauffe ici, ça chauffe là-bas. Plaire à Dieu, c'est de la communion. C'est une communion. Il nous a appelés à la communion de son fils. Donc cette phrase, il est impossible de lui plaire, dit finalement que... Pardon, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Cette phrase dit finalement que le but ultime de la foi, c'est de plaire à Dieu. D'accord ? D'accord ou non ? Cette phrase, est-ce que si vous avez le sentiment que je force le texte, dites-le. J'aime quand on me réajuste. Il me semble que cette phrase implique, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Tout le contexte montre que le but, il faut lui plaire, et donc le but ultime de la foi, eh bien, c'est de lui plaire. Alors il y a un but intermédiaire à la foi, c'est toutes les réponses que Dieu va donner à nos besoins, etc., matériels, spirituels, mais le but ultime, c'est lui plaire. Alors, je ne peux pas conclure cette prédication sans dire quelques mots. On va lire Hébreux 13, donc on saute à deux chapitres plus loin, verset 21, et je vais pour pas comment dire, pour pas compliquer, je lis que la fin du verset 21, que Dieu fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Que Dieu fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Jésus est associé à la gloire du Père. Et donc, ce qui est que Dieu fasse en nous, produise en nous le vouloir et le faire, donne la foi, l'obéissance, l'humilité, etc. Voilà, tout le monde rajoute les mots. Et qu'il le fasse en nous, par son esprit, par sa parole chargée de son esprit, par le soutien des frères et sœurs, etc. Et aussi par sa correction des fois. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable. Et ici, précision vitale, c'est que c'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut lui être agréable. Donc de même qu'au début, la foi, celui qui croit, c'est seulement parce que Dieu a parlé et a indiqué ce qu'il faut espérer, sans quoi sa foi, elle repose sur du vide, eh bien de même, plaire à Dieu, toute notre bonne volonté, notre docilité n'est pas méprisée et mise de côté. Mais Dieu nous enseigne, clairement nous met bien ça dans la pensée. N'oublie pas que je t'ai élu, appelé, racheté, adopté en mon Fils. Et pas toi tout seul et mon Fils il serait ailleurs. Je t'ai adopté en lui. Donc tu me plais, et tu peux me plaire beaucoup ici-bas déjà, en lui. Pourquoi en lui? Parce que qui plaît à Dieu éternellement, absolument, sans mesure? Le Fils unique. Hein? En lui, mon âme se complaît. Dieu a fait déjà écrire ça à Isaïe en parlant du Messie. Et puis c'est ce que Dieu dit quand Jésus est baptisé. Mon Fils bien-aimé, en lui, j'ai mis tout mon plaisir affection. C'est le sens. Notre Père, merci de nous avoir élus, appelés, rachetés, adoptés en ton Fils bien-aimé. Et merci de nous faire cheminer ensemble. Et de nous avoir appris déjà en partie et de nous apprendre encore en lui, en ton Fils, à te plaire. Amen.